au chapitre 19, verset 19, et je vais lire dans la version Louis II. Chapitre 18, verset 28, au chapitre 19, verset 19. Ils conduisirent Jésus chez Pilate au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils répondirent, « S'il n'était pas malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « Hôte ! Hôte ! Crucifie !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César !» Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ».
Merci Stéphane. Il y a de l'ironie dans la question de Pilate, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vérité? Moi, dans une première lecture, j'ai l'impression que c'est un Romain qui a été introduit, qui a été initié à la philosophie grecque, à toutes les grandes questions, puis qui, devant ça, lance à la volée, « Mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce que ça existe même, la vérité? » Parce que ces questions-là philosophiques étaient déjà soulevées à l'époque, évidemment. Mais en même temps, je le relisais cette semaine, puis je me disais, « C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça qu'il y avait dans l'esprit de Pilate, puis honnêtement, on n'a pas la réponse. » On essaie de deviner. Peut-être aussi que Pilate est en train de refléter l'espèce de farce monumentale qui est tout ce procès-là. Ou à travers toutes les lignes, et c'est volontiers, si ce matin on a pris le temps de lire un plus long passage, à travers toutes les lignes, on voit que la vérité n'est pas recherchée. Il n'y a pas de réelle quête de la vérité dans tout ce procès-là, ni chez les Juifs, chez les chefs qui mentent éhontément en disant « Nous n'avons pour roi que César. » Hey, c'est n'importe quoi. Ils étaient sous occupation romaine, ils étaient frustrés contre les Romains. D'aucune manière, les chefs religieux reconnaissaient véritablement en César leur roi. Et tout le contexte de ce procès-là, c'est une farce. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Pilate prend ses décisions par intérêt politique. Jean prend le temps de nous rapporter le dilemme moral de Pilate, la difficulté. Pilate voit très bien que ça ne fonctionne pas, c'est une farce cette affaire-là. Alors, est-ce que c'est ça que Pilate est en train de souligner lorsqu'il dit « Mais qu'est-ce que la vérité? » Est-ce que vraiment on s'en fout pas un peu de la vérité, mon homme? J'ai ta vie entre les mains. Laisse-moi tranquille avec tes questions philosophiques. Puis lorsqu'on pense à la foi, lorsqu'on pense à la religion, lorsqu'on pense à toutes ces questions-là, je trouve qu'on vit à une époque où il y a tellement, tellement, tellement d'informations que ça devient même un défi de garder une quête de la vérité. Il y a quelque chose de différent à notre époque qu'à cette époque-là. C'est la somme d'informations qu'on a. Et j'ai souvent l'impression, puis je pense que vous allez le reconnaître aussi, que cette grande quantité d'informations-là, dans tous les domaines, pas juste dans le domaine de la foi, dans un paquet de sujets, nous déstabilise énormément, puis on en vient à décider qu'il y a des domaines où on cherchera peut-être pas la vérité. Puis ça se manifeste de toutes sortes de manières. Dans d'autres domaines, au contraire, devant tous ces choix-là, on est incapable de décider qu'est-ce que c'est la vérité. Alors, par exemple, sur des questions de foi, plusieurs vont dire, bien, j'abdique, j'abandonne, je ne chercherai plus la vérité. Écoute, il y a trop d'options, je vois les différentes religions, il y a des gens qui croient dans toutes sortes de choses. La vérité se trouve peut-être pas. Ou alors, je vais trouver ma vérité à moi. Puis dans un autre domaine très, très concret et très pratique, puis je pense aux jeunes. Il y a tellement d'informations sur tellement de possibilités que je pourrais faire comme carrière dans ma vie, que là, je deviens totalement déstabilisé. Puis à quelque part, ma question, c'est, oui, mais comme ma voie à moi est où là-dedans? Où est-ce que je dois être? Puis là, on est paralysé devant toutes les options. C'est drôle parce qu'il y a des domaines, là, je vais faire un petit commentaire sur le côté. Il y a des domaines où c'est pas super important de trouver la vérité. C'est quoi ma voie? C'est quoi la profession que je dois faire? C'est pas aussi important de trouver la réponse à ça que d'avancer puis être en train de construire. Puis là, on est paralysé. Tant qu'on trouve pas notre voie, on n'avance pas, on fait rien. Puis il y a d'autres domaines où c'est super important de trouver la vérité parce que ça pourrait impliquer des questions de vie ou de mort et d'éternité même. Bien là, on abdique puis on se dit, ben je vais décider pour moi-même c'est quoi la vérité tout simplement. C'est étrange, hein, comment est-ce qu'on se comporte face à la vérité. C'est étrange comment on se comporte face à la vérité. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus n'a pas apporté aux hommes une vérité sur Dieu. Jésus n'est pas venu simplement pour nous apporter une option, une voie vers Dieu. Et vous allez voir que si cette idée-là, cette question-là s'adresse à celui qui est en train de chercher ou non Dieu, ça s'adresse aussi à celui qui a reconnu en Jésus-Christ la vérité. Parce que nous aussi, au quotidien, on cherche souvent ailleurs qu'en Jésus-Christ. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus n'est pas venu apporter aux hommes une vérité sur Dieu, car il est la vérité. Il est venu pour que nous soyons libérés par cette vérité-là. Et ça passe l'étape du concept, ça passe l'idée d'une idée extérieure, objective, voici la vérité, à une vérité qui vient nous transformer personnellement de manière extraordinaire. Alors que Jésus est accusé par ses détracteurs d'être une fraude, un menteur, un imposteur, c'est comme une thématique dans les médias québécois de ce temps-ci, n'est-ce pas? Les fraudes avec les enquêtes de l'UPAC, tout ça. Jésus insiste pour dire, non seulement il n'est pas une fraude, il n'est pas un menteur, mais qu'il apporte une vérité qu'on ne pourrait pas avoir sans lui. Non seulement Jésus dit vrai, mais il dit vrai sur quelque chose qui nous est autrement inaccessible. Et donc, la question à savoir si Jésus apporte la vérité, s'il est la vérité, est super importante parce qu'il prétend, il affirme, nous apporter des informations, nous donner une connaissance qu'on ne pourrait pas avoir autrement que sans Jésus-Christ. Jésus-Christ témoin de la vérité. Regardez le verset 37, on va juste le relire. Pilate lui dit, « Tu es donc roi! » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Dans l'évangile de Jean, il faut savoir qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, puis chacun des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous aide à avoir plus d'informations, une perspective différente, des thèmes, des sujets particuliers dans chacun des évangiles. Et un thème important, un sujet important dans l'évangile de Jean, c'est cette notion-là de vérité, cette idée-là de vérité. Et le mot grec qui est là pour vérité signifie d'une part quelque chose qui est confirmable, qui est vrai comme une certitude, mais c'est aussi quelque chose qui nous révèle. C'est l'idée qu'on a une révélation d'une vérité. C'est une vérité qui est dévoilée, d'accord? Et c'est un thème qui est vraiment important à travers tout l'évangile de Jean. Je vais vous lire une série de versets qui ne seront pas affichés. Je vais juste les écouter pour voir que c'est une thématique qui revient à plusieurs reprises. Au tout début de l'évangile de Jean, dans le prologue, l'introduction, avant de commencer à rentrer dans le récit lui-même de la naissance, la venue de Jésus, Jean nous donne une introduction et voici ce qu'il dit au verset 9. Jean 1, 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Un peu plus loin, on va voir qu'il va utiliser la métaphore, non plus de la lumière, mais de la parole, et que cette parole-là, en fin de compte, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, celui qui vient nous éclairer en nous apportant la lumière qui vient de Dieu, qui vient nous faire connaître Dieu. Mais Jean, au début de son évangile, insiste sur ce point-là. Cette lumière-là est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière qui éclaire tout homme, non pas une parmi tant d'autres. Verset 14, toujours dans l'introduction, et la parole, on est rendu maintenant avec l'image, la métaphore de la parole pour parler du Fils incarné de Jésus. Et la parole a été faite chair, elle s'est incarnée et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Encore quelques versets plus loin, toujours dans l'introduction, Jean dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et ceux qui sont familiers avec le Nouveau Testament, vous méditerez sur ça. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, il est en train de dire que la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Est-ce que la loi était fausse? Est-ce que Moïse a apporté le mensonge puis Jésus la vérité? De quoi il parle? On va le voir un petit peu plus loin, d'accord? Dans Jean 4, c'est Jésus qui parle et il dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et donc, Jésus est en train de dire qu'il vient un moment, et avec lui, ce moment est arrivé, où les gens vont adorer avec une plus grande vérité qu'ils n'adoraient dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande dans Jean 4, 23. Jean 5, 33. Vous avez été envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Jean-Baptiste avait été envoyé pour rendre témoignage à la vérité qui viendrait. C'est un des thèmes importants dans l'évangile de Jean. Donc, en matière de foi, lorsque vous étudiez le christianisme, puis lorsque vous arrivez au secondaire, mais encore au cégep, puis que vous commencez à être confronté à toutes sortes d'autres alternatives, toutes sortes d'autres options, puis vous voyez des millions de personnes sur la terre qui sont d'une autre croyance, puis là, vous êtes confronté avec ça, puis vous dites, « Oui, mais je veux dire, c'est des gens aussi intelligents que moi, même plus intelligents que moi, pourquoi pas? » Où se trouve la vérité dans tout cela? Vous entendrez des voix, des gens qui vont vous dire, « Bof! » C'est une quête aveugle que l'homme fait pour atteindre Dieu. Et donc, on veut croire qu'à l'intérieur de toutes ces quêtes-là, il y a un peu de vérité, puis on va faire quelque chose avec ça. Certains vont aller plus loin. Et de plus en plus, c'est le signal qu'on reçoit de l'Église catholique. Alors, je suis désolé de pointer comme ça ce matin, mais de plus en plus, c'est frappant. Le pape précédent était beaucoup plus conservateur dans sa théologie. Ratzinger, de son petit nom, était beaucoup plus conservateur. Le nouveau pape est beaucoup plus écuméniste, beaucoup plus écuménique. Et donc, dans son discours, il communique de plus en plus que, dans le fond, on croit tous un peu la même chose puis on s'en va tous au même endroit. Puis c'est important d'être sensible à ça, d'accord? Je sais qu'on n'est pas à une époque où on s'amuse à attaquer des gens pour attaquer des gens. Et j'espère que c'est évident dans le message qui est apporté dans cette église qu'on veut respecter tout homme pour son intelligence. Mais je ne respecte pas quelqu'un d'autre lorsque je suis en train de parodier ce qu'il enseigne. C'est une parodie, par exemple, de l'islam. Si je disais que l'islam croit exactement dans le Jésus du Nouveau Testament, c'est pas vrai. Lisez le Coran, c'est faux. Le Coran n'enseigne pas que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est pas vrai, ça. D'accord? Et donc, ça serait une parodie pour moi si je disais que l'islam enseigne ça. Ce n'est pas vrai. Ce serait une parodie aussi de dire que Jésus croyait qu'il y avait la vérité un peu partout. Et que Jean ici croyait qu'il y avait la vérité un peu partout. Aucunement. C'est un thème super important. Après, chacun doit prendre ses décisions. Après ça, après avoir examiné comme il faut, attentivement examiné les Écritures, chacun doit se faire une opinion par lui-même, puis assumera les conséquences, la responsabilité de sa décision. À vous de décider si Jésus est la vérité. Mais clairement, Jésus prétend l'être. Clairement, le christianisme prétend être la voie vers Dieu. Et je sais que ce n'est pas populaire. Ce n'est pas respecter les autres non plus de parodier ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont enseigné. Ce ne serait pas envers Christ, ce ne serait même pas envers toutes les religions. Certaines ont tendance à être fortement écuméniques. Dans leur nature, chacune d'entre elles, pratiquement chacune d'entre elles ne le sont pas du tout. Et donc, ne sont pas en accord les unes avec les autres. Ce n'est pas vrai. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer tout le monde. Ce qui ne m'empêche pas de respecter tout le monde. C'est très important. Mais je vais respecter aussi ton intelligence. Puis on va dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont ici, dans le livre aussi. Et donc, lorsqu'on parle de quête de la vérité pour le chrétien, il faut déterminer où se trouve la vérité. Parce que Jean affirme au début de son évangile que cette lumière est venue dans le monde et que cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Tout homme sur la terre, que tu sois de n'importe quelle culture, de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle croyance, en n'importe quelle époque. La véritable lumière qui éclaire tout homme. Et donc, Jésus s'est présenté devant Pilate au moment où il allait être crucifié, au moment où il allait mourir, et il prend le temps d'affirmer qu'il est témoin de la vérité, une seule vérité. Et je vous encourage à faire votre cheminement, à clarifier ces choses-là. Si vous êtes jeune, vous êtes au cégep, vous allez à l'université, puis on commence à vouloir vous faire bouger un peu dans vos fondements, affermissez vos fondements. Faites-le pas juste en disant « Non, je suis pas d'accord. » Apprends à défendre ta foi, apprends à exposer, apprends à dialoguer en tout respect pour l'autre, mais à exposer ces choses-là clairement, parce qu'elles sont très claires dans les Écritures. Et je peux décider, et je peux conclure que Jésus n'est pas vrai. Mais je vais le faire en ayant étudié, puis je vais assumer les conséquences si c'est ça. Je ne vais pas faire un amalgame en disant « bof, c'est un peu tout vrai ces affaires-là ». Ça ne l'est pas, pas du tout. Jésus dit ici dans Jean qu'il vient comme un témoin. Regardez avec moi les versets 36-37. Verset 36, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. »
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Puis au verset 37, il dit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et donc, clairement, Jésus nous dit qu'il vient rendre témoignage d'une vérité qui nous serait autrement inaccessible. Jésus vient d'ailleurs. Si ça vous tente, on va le dire comme ça, il est extraterrestre. Pas dans le sens qu'il a des petites antennes puis qu'il est vert. Dans le sens qu'il vient d'ailleurs d'un monde qui ne nous est pas accessible par nous-mêmes. Et donc, Jésus vient pour nous apporter le témoignage, la connaissance d'un monde qui nous est autrement accessible. Et son royaume qu'il vient établir n'est pas de ce monde non plus. N'est pas de ce monde non plus. Et donc, Jésus vient rendre témoignage à quelque chose que je ne pourrais pas découvrir moi-même. Beaucoup de théologiens à travers l'histoire de l'Église ont voulu souligner, exprimer le fait qu'il y a une quête naturelle dans l'être humain où on cherche quelque chose d'un autre monde. Quelque chose qui, juste les réalités matérielles qui nous entourent, cette vie avec son début, sa fin, tout ça, ne rassasie pas entièrement. Il y a une quête qui est plus profonde, plus grande que cela. Et dans ce sens-là, oui, toutes les religions du monde reflètent à quelque part cette quête-là, d'accord? Il y a quelque chose à quelque part qui est plus grand qu'être simplement de la matière. Et le simple fait que je vais être offensé lorsqu'il y a des choses mal qui sont faites ou que je vais me réjouir lorsque l'UPAC fait des arrestations puis on dit « OK, on est cynique souvent, mais voici une opportunité de dire que la justice existe parfois dans ce monde. » On va suivre la suite de l'enquête puis tout ça pour voir si les gens sont vraiment coupables avant de les condamner, mais ça résonne en nous avec cette quête-là de justice. Parce qu'à quelque part, fondamentalement, dans l'être humain, il y a cette conscience de l'être qui dépasse ici, maintenant, qui est plus grande que ça. Il y a une frustration profonde chez l'être humain d'une vie si courte et si brève. C.S. Lewis, un auteur que j'aime énormément, a écrit ceci. « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Et je crois que c'est cet écho-là qu'il y a en nous, d'un sentiment d'éternité, où on sent qu'on est plus que de la matière et que notre vie dépasse cette simple vie matérielle. Les sociologues, les historiens pensaient qu'avec l'avènement de l'ère moderne et tous les développements de la science, cette espèce de conviction profonde qu'il y a chez la majorité des êtres humains sur la Terre, qu'on a une âme et qu'on est plus que de la matière, en viendrait à disparaître. Et au contraire, ce n'est pas le cas du tout. Ça demeure très, très fort en nous. On aspire à être plus que cette simple vie très, très brève. Et c'est à ça que Jésus est en train de faire écho ici. Lorsqu'il dit qu'il nous parle d'un monde qui nous est inconnu et qu'on peut découvrir à travers lui, il est venu nous révéler des choses qu'on ne peut connaître autrement. Il est venu nous révéler la vérité sur des choses qu'on ne peut connaître sans lui. La dernière chose que je veux mentionner sur cette idée-là que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité, l'Évangile de Jean prend le temps de développer ça de manière super importante. On a tendance à croire, lorsqu'on parle de vérité, qu'il s'agit premièrement d'un concept. C'est comme une idée. La vérité, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. C'est un concept. Ce que Jésus nous révèle sur lui-même à travers l'Évangile de Jean, c'est que la vérité est plus qu'un concept. C'est une personne. Dans ma vision du monde, dans la vision du monde d'un chrétien, Dieu est l'auteur de toutes choses. Et tout ce qu'il y a de parfait et de bien dans l'univers origine de Dieu. Par exemple, l'amour. On va dire que l'amour, c'est un sentiment, c'est un système de valeurs, c'est des choses qui font qu'on interagit ensemble de manière bienveillante, avec attention, avec affection. On va se donner par amour pour quelqu'un. Maintenant, les Écritures nous disent que ces vertus-là, ces qualités-là extraordinaires, originent d'une personne, puis fondamentalement, cette personne-là incarne et ça de manière parfaite. Ainsi, Jean, dans ses lettres, va dire que Dieu est amour. Il ne va pas simplement dire que Dieu aime. Ça va faire 24 ans l'été prochain qu'on est mariés. C'est ça? La femme va me corriger tantôt, j'espère que je ne me trompe pas. C'est ça, chérie? Elle m'a dit oui, phew. Mais je peux vous assurer qu'après 24 ans, si vous demandez à Esther si Yannick est amour, je pense qu'elle serait prête à dire que je l'aime, que je suis amour, non. Parce que je tends vers ça, parce que j'essaie de l'être, parce que j'essaie de l'apprendre, parce que j'essaie de l'incarner, parce que je me repens 100 fois de ne pas l'avoir justement été. Mais lorsqu'on parle de Dieu, celui de qui origine toute chose et toute vertu, tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent vient de Dieu, là je peux dire, Dieu est amour. Mais de la même manière, et c'est pour cette raison-là que je ne peux pas mettre Jésus sur le même pied d'égalité que toutes sortes de prophètes à travers toutes sortes de religions, ou même que les autres prophètes à travers la Bible, de la même manière, Jésus qui est le Fils éternel de Dieu, qui est Dieu le Fils, fondamentalement dans son être, il est amour. Parce qu'il est Dieu le Fils incarné. Jésus n'a jamais décidé qu'il allait apprendre l'amour. Il est amour. Et donc, dans le domaine de la vérité, maintenant je suis passé de l'amour, allons à la vérité ensemble. Jésus n'est pas simplement venu nous apporter des informations, des données qu'on allait recueillir dans un livre sur un monde inconnu, sur un Dieu inconnu, puis nous donner des informations. Non, c'est plus que ça. Jésus est la vérité. Éternellement, dans la présence de Dieu, dans la Sainte Trinité, Jésus, Dieu le Fils, s'est incarné et devenu homme, Jésus de Nazareth. Et donc, la vérité a marché parmi nous. La vérité est venue vers nous. Il n'est pas simplement venu nous apporter la vérité. Il est venu nous apporter lui-même qui est la vérité. La nuance est super importante. Parce qu'aucun prophète d'aucune religion, à part Jésus, a prétendu être la vérité. La nuance est super importante parce que lorsque je suis tenté de mettre toutes ces informations-là sur un pied d'égalité puis dire je vais aller piger dans tout ça, Jésus n'est pas simplement venu nous dire des choses vraies sur Dieu. Jésus est la vérité. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Ça implique que Jésus-Christ est au centre de ma vie chrétienne. C'est ça que ça implique. D'une manière excellente, parfaite, sans aucune commune mesure de comparaison avec l'Ancien Testament et jamais dans le futur, Dieu s'est révélé de manière parfaite et excellente à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ, parce qu'il est fondamentalement, intrinsèquement, par nature, il est la vérité. Et donc, Jésus est au centre de ma vie chrétienne. Des fois, les chrétiens vont débattre puis vont dire « Ah, on n'accorde pas toute la place à l'Esprit-Saint qu'on devrait lui accorder. » Soit, on devrait être plus sensible à l'Esprit-Saint. On devrait être sensible à ce qu'il nous révèle. On devrait bénir Dieu pour cet écho-là que l'Esprit fait dans mon cœur. C'est l'Esprit de Christ qui me rappelle que j'appartiens à Christ, je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu. C'est vrai. Jésus-Christ est au centre de ma vie chrétienne. Parce qu'il est l'incarnation, la révélation même de la personne de Dieu. Jésus-Christ est au centre de toutes les Écritures. Jésus-Christ est son œuvre. C'est pour ça qu'on va parler de la centralité de l'Évangile, d'accord? C'est simplement parce que c'est lui qui est la révélation parfaite. C'est ce qui fait, soyons très concrets, c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un m'approche et me dit « OK, où je commence? Je veux lire la Bible, par où je vais commencer? » Commence par un des quatre évangiles. Je ne comprends pas, les évangiles sont quand même pas mal loin dans ton livre. On ne commence pas par le couvert, vous êtes bizarres, vous autres, je ne comprends rien. Tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament, vraiment, tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament si tu ne sais pas, si tu n'as pas commencé à comprendre qui est Jésus-Christ. Tu pourrais le lire à partir de la première page, mais nonobstant le fait qu'on a des siècles de distance, la culture est différente, il y a un paquet de choses que tu vas rencontrer qui ne feront aucun sens dans ton esprit tant et aussi longtemps que tu ne comprendras pas qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. De la même manière, la semaine prochaine, on va commencer dans Malachie. Certains d'entre vous vont dire « Enfin, on s'en va dans l'Ancien Testament. » Yannick va rester collé dans le texte. Je ne vous prêcherai pas le passage, le livre de Malachie, sans faire référence à Jésus-Christ. Pour une raison très simple, c'est que le livre de Malachie pointait vers la venue de Jésus-Christ, comme toute la loi pointait vers la venue de Jésus-Christ. Et si je prêche le livre de Malachie comme un juif qui ne connaît pas Jésus le ferait, admettons, je vais vous enseigner des erreurs. Je vais vous enseigner une révélation partielle qui n'est pas conforme aux Écritures. J'aime lire l'Ancien Testament, j'aime étudier l'Ancien Testament, mais je le fais comme un chrétien ou comme un juif qui aurait cru en Jésus. Mais je ne le fais pas comme un juif qui a rejeté Jésus comme le Messie. Je ne peux pas le lire comme ça. Il y a un paquet d'informations qui vont être très incomplètes dans ma lecture. La vérité que nous apporte Jésus-Christ nous amène ailleurs. Et en fin de semaine, on célèbre la Pâque, puis on ne veut pas que tout ça soit simplement des concepts qui ne changent pas nos vies. Mais la vérité que Jésus apporte, c'est une vérité qui vient d'un autre monde, puis qui nous amène ailleurs. Cette vérité-là nous amène dans son royaume. Cette vérité-là vient transformer nos vies concrètement. Jésus n'était pas venu simplement pour nous donner des informations sur Dieu. Il était venu pour nous affranchir, pour nous libérer par sa vérité. Et donc, dans l'Évangile de Jean, la vérité vient transformer l'individu qui la reçoit. La vérité qui conduit à la liberté du péché. Tournez avec moi dans vos Bibles, dans Jean 8. On va aller ensemble dans Jean 8, puis je vais juste vous lire quelques versets. Versets 31-32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jésus vient avec une connaissance, un témoignage, une révélation d'un monde qui nous est autrement inaccessible. Parce qu'il vient du Père, il vient nous faire connaître ça, et il dit, si vous demeurez dans mes enseignements, si vous recevez cette parole-là qu'elle demeure en vous, vous allez être libérés, vous allez être affranchis. Là, les Juifs ne comprennent pas de quoi tu parles, qu'est-ce que tu veux dire, on n'est pas esclaves. Les Juifs, si vous connaissez votre Ancien Testament, les Juifs ont été libérés de l'esclavage. Moi, c'est pas tout à fait vrai, ils étaient esclaves de Rome à ce moment-là, mais ils avaient été libérés de l'esclavage en Égypte. Puis ils avaient Dieu pour Père. Alors Jean 8, 33-36, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Ils ont la mémoire courte. « Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. » Si donc le Fils faisant référence à lui-même, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tous les hommes sur la terre ont en eux-mêmes cette conscience de l'éternité, ce sentiment que nous sommes plus que simplement de la matière, tous les hommes sur la terre ont en eux-mêmes un conflit interne profond parce qu'on aspire souvent à faire le bien puis on se retrouve à faire le mal. On aspire à construire et souvent on détruit. Et l'esclavage le plus grand que l'être humain, qui est donné à l'être humain de vivre, ce n'est pas l'esclavage physique. Dieu merci, je vis dans un pays de liberté. Je parle peut-être un petit peu à travers mon chapeau à moi. Mais ce n'est pas l'esclavage physique. C'est celui qui est dans le cœur, parce qu'on est tous profondément, par nature, esclaves du péché. Incapables par nous-mêmes de faire le bien en toutes circonstances. Même si on aspire à ça. Et la plus grande libération que Jésus-Christ apporte, que la vérité de l'Évangile apporte, c'est cet affranchissement-là, cette libération-là du péché. Lorsque tu viens à connaître Jésus-Christ et qu'il entre dans ta vie, lorsque tu saisis ce qu'il a fait en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, la première chose qui se passe dans ta vie, c'est que Dieu t'accorde son pardon et sa grâce. Chacun d'entre nous, on a une histoire. Ceux qui étaient ici vendredi soir, qui avaient entendu le témoignage de Guillaume, Guillaume a mentionné que Dieu l'a surpris par sa grâce en réveillant sa conscience. Parce que dans sa vie, il restait assez mystérieux là-dessus, dans sa vie, il y avait des choses qui avaient été faites qui étaient innommables et qui étaient là, dans sa conscience, dans son cœur. Et certainement que l'une des plus belles grâces qu'un être humain peut vivre de son vivant sur la terre, et là je parle par expérience, c'est de savoir, pas parce que je le souhaite en croisant les doigts, pas parce que j'imagine Dieu comme j'aimerais l'imaginer, pas parce que je me suis dit, « Ah, moi, j'ai fait la paix avec l'univers. » De savoir profondément dans mon âme que Dieu est en paix avec moi et que je suis en paix avec Dieu parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, personnellement, et que Dieu a accepté son sacrifice en le ressuscitant d'entre les morts. Et chrétiens, c'est la plus belle grâce que Dieu peut vous accorder de vous lever chaque matin, de vous coucher chaque soir, en considérant de manière lucide, honnête, votre journée, puis de dire, j'ai été poche aujourd'hui dans telle ou telle réplique, il faut que je récupère ça demain avec Esther, avec les enfants, avec des amis, avec des collègues, avec n'importe qui, je ne pourrais pas récupérer ça, là, je ne le reverrai pas. Ça a juste été comme... Finalement, je me suis comporté au volant tantôt, puis je pense que lui, je ne le reverrai pas, elle. Et c'est une des grâces, sinon la plus belle grâce qui nous est donnée comme chrétiens, de me coucher chaque soir, de me lever le matin, en ayant sur ma conscience des choses que j'ai faites, puis en ayant la liberté d'aller les déposer au pied de la croix, puis de dire, Seigneur, encore aujourd'hui, j'accepte ta grâce. J'accepte ta grâce. Je suis affranchi de ma culpabilité, pas parce que j'ai été sa coche aujourd'hui, pas parce que j'ai été bon aujourd'hui, parce que Jésus-Christ, il y a 2000 ans, c'est ça qu'on fête en fin de semaine, est mort sur la croix pour mes péchés. Chrétien, est-ce que tu vis avec une conscience libre de tes fautes au quotidien? Ou est-ce que tu es dans une espèce de pattern de performance? Puis t'essaies à tous les jours d'acquérir la paix dans ton cœur parce que t'es sa coche. T'es un bon chrétien. Ça n'existe pas un bon chrétien. Je le dis souvent, ça n'existe pas un bon chrétien. Il y a juste des mauvais chrétiens. Graciés. Pardonnés. Saints mis à part. Pas parce qu'on est sa coche. Parce que Christ l'a été parfaitement sur la croix. Et une fois que j'ai reçu cette grâce de savoir que je suis affranchi, je suis libéré de mon péché, j'ai la possibilité à ce moment-là de commencer une vie nouvelle. Où l'apôtre Paul va me dire que j'ai été de fait aussi libéré de la domination du péché. Et je peux commencer une vie différente où chaque jour, par la grâce de Dieu, je cherche à ressembler à Dieu. Il y a un théologien du 19e siècle, Søren Kierkegaard, si ça vous tente de vous casser la tête. Si vous trouvez que Guillaume est un petit peu compliqué à aller lire Kierkegaard, vous allez voir, ça c'est méchant casse-tête. Mais quand même, des choses super intéressantes. Kierkegaard disait ceci, il y a, par rapport au christianisme même, il y a comme deux formes de vérité. Suivez-moi, c'est super important pour comprendre aussi à quelque part c'est quoi devenir chrétien. Il disait, il y a une vérité objective qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait. On est pécheur, on est condamné. C'est des informations que je reçois. Ça se peut très bien ce matin que pour la majorité d'entre vous, ces informations-là, vous dites, OK, it makes sense, c'est vrai, c'est raisonnable, j'y crois. Je crois que c'est ce que les Écritures enseignent. Ça, c'est la vérité. Søren Kierkegaard disait, tu deviens chrétien lorsque cette vérité-là, objective, extérieure à toi, devient une vérité subjective, personnelle pour toi. En des termes contemporains, on dirait le moment où tu rencontres Jésus-Christ. Le moment où, chaque fois que tu entends parler de l'Évangile, tu ne l'entends plus comme une idée intéressante, mais comme ton trésor le plus précieux, une expérience personnelle que tu as faite. Tu as rencontré Jésus-Christ. Dans Jean 8, 37, voici ce que Jésus répond aux Juifs qui sont en train de le challenger. Il dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que vous ne recevez pas mes paroles. Ces gens-là, malgré tous les mensonges qu'ils ont comptés au moment où ils ont envoyé Jésus pour être crucifié, savaient très bien que c'était un homme droit, que c'était un homme juste. Ils le reconnaissaient eux-mêmes, même s'ils magouillaient d'une manière terrible comme des politiciens les plus véreux possibles. Mais ils connaissaient une vérité sur Jésus. Mais cette vérité-là ne pénétrait pas leur cœur. Ils ne la recevaient pas. Je reviens dans Jean 18 et on va terminer ici. Je reviens dans Jean 18 avec vous. Il y a une drôle de parole que Jésus prononce. Au verset 37, il dit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Je ne sais pas si vous avez remarqué la phrase qui suit tantôt lorsque je l'ai lue. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comme Guillaume, puis comme les Écritures, comme les chrétiens, je crois que l'être humain ne chemine pas de lui-même vers Dieu. Dieu l'attire. Dieu l'attire. Et il est donné à celui qui entend la voix de Jésus de venir faire cette connaissance subjective dont parle Søren Kierkegaard en expérimentant la réalité personnelle, très profonde, du sacrifice de Jésus à la croix pour mes péchés à moi. Alors ce matin, je m'adresse à certains d'entre vous qui ne vous définissez pas comme des chrétiens, mais qui entendez la voix de Jésus. Au nombre qu'on est ce matin, j'ai confiance que quelques-uns d'entre vous, vous entendez cette voix-là. Mais jusqu'à présent, la vérité de qui est Jésus, c'est pour vous une vérité extérieure, objective. Ce n'est pas votre vérité à vous dans le sens que vous l'avez reçue personnellement. Si vous entendez sa voix, répondez, répondez. Ailleurs, Jésus dit que c'est la voix du bon berger qui veut prendre soin de votre âme, qui veut non seulement être ce sauveur qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, qui est ressuscité d'entre les morts, mais qui veut être votre sauveur personnel. Comment est-ce que ça se fait? Simplement en priant, puis en disant, « Seigneur, je veux comprendre. Je veux recevoir, je veux saisir toute la vérité de ton évangile, ton œuvre. Qu'est-ce que représente ton sacrifice à la croix pour moi personnellement? Qu'est-ce que ta résurrection représente? Je veux entrer dans cette expérience où cette vérité que je réalise sur toi devient cette vérité personnelle pour moi. Je veux entrer dans ton royaume, Seigneur Jésus. Parce que je réalise, j'entends cet écho-là en moi, d'un monde autre, que toi seul peux me révéler. Et je réalise que je suis pécheur profondément, incapable, incomparable avec toi, de satisfaire à la justice de Dieu. Je veux te connaître personnellement, Jésus-Christ. Et à celui qui cherche, Dieu dit qu'il se révèle. Par sa grâce, maintenant ou dans quelques jours ou dans quelques mois, vous allez faire l'expérience personnel et subjectif de la personne de Jésus-Christ, parce que ses paroles vont pénétrer en vous. Son esprit va venir faire sa demeure en vous, c'est ce que nous dit encore l'apôtre Jean. Et vous allez savoir profondément dans votre cœur que vous avez été libéré, affranchi du péché. Maintenant, si j'ai déjà vécu ça, si j'ai déjà connu Jésus-Christ personnellement, je sais que Jésus est la vérité. Je sais qu'il n'y en a pas d'autre. Je sais qu'il est mon berger. Je sais qu'il est mon guide. Alors avec le psalmiste, qu'est-ce que je dis tous les jours? Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'apprends à tous les jours à douter des autres voix que j'entends, à les remettre en question pour aller voir si elles sont conformes avec ce que Jésus-Christ m'enseigne. J'apprends tous les jours à écouter les voix intérieures qui m'amènent à dire « ça ne marche pas, tu es trop poche, tu n'es pas bon. Non, 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 va réclamer justice, va y régler ses comptes à lui, défends-toi! » Tu vas être plus heureux à l'extérieur des voix de Dieu qu'avec Dieu. J'apprends à distinguer ces voix-là dans mon cœur, dans le monde, à travers tout ce qui me nourrit. Et j'apprends à rester attentif à la voix du bon berger qui me dit « demeurez dans ma parole, demeurez dans mon amour. Tu es entré dans mon royaume, je t'ai affranchi, reste avec moi. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. C'est ça qu'on veut faire, on veut célébrer ton sacrifice parfait. Seigneur, on a entendu ta voix, vers qui irions-nous maintenant, Seigneur? Et pourtant, alors qu'on célèbre la Pâque, Seigneur, on veut confesser. Je veux confesser, moi, personnellement, Seigneur, que souvent toutes ces voix se brouillent dans ma tête et j'écoute des fois le vieil homme qui en moi veut me dire « Ah non, trouve ton bonheur ailleurs, va voir ailleurs, va voir ailleurs. » Ça ne fonctionne pas tout ça. Prends une pause. Repose-toi de Dieu 2 minutes, tu le mérites. Seigneur, je te confesse, Seigneur, que ces voix deviennent parfois confuses dans mon cœur et dans ma tête et que j'oublie que j'ai connu la vérité. Je te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs et à nos âmes ce matin. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, dans cette pièce, dans cette salle, entendent ta voix, entendent la voix du bon berger qui les appelle. Accorde-leur cette grâce, Seigneur, de s'humilier et de venir à toi aujourd'hui. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen.